Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Nouvelle petite plage d'accalmie dans l'agenda des événements musicaux cette semaine. Elle ne va toutefois pas être durable et je peux même d'ores et déjà vous annoncer que la fin du mois de mars est particulièrement chargée. Mais n'anticipons pas trop, nous verrons ça lors de notre prochaine émission. Il y a tout de même une actualité à vous présenter pour les jours à venir et pour ce faire, je peux compter de nouveau sur Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. J'ai invité également Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Serge, Robert et moi, nous avons le plaisir de recevoir pour la première fois à Mélomanie Christophe Millet, le directeur du Conservatoire Rayonnement Régional de Toulouse, dont il a pris les rênes en novembre dernier. Et il dirige même les concerts que donne l'orchestre du Conservatoire samedi 29 mars à 15h et 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Christophe Millet va nous présenter le programme de ce double rendez-vous en seconde partie d'émission. Pour l'instant, petit regard sur l'actualité musicale récente. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue Robert et Serge et bienvenue Christophe Millet que je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui dans cette émission. Un seul événement au sommaire de ce retour sur l'actualité musicale récente, c'est Robert qui va nous en parler puisqu'il a assisté le 6 mars au récital du baryton allemand Michael Folle au Théâtre du Capitole. Vous nous aviez dit il y a deux semaines à quel point vous étiez impatient d'entendre ce grand chanteur pour la première fois à Toulouse. C'était vraiment un événement et je crois savoir que vous n'avez pas été déçu par sa prestation.
Effectivement, et je n'ai pas été le seul à ne pas être déçu parce qu'autant vous dire que le public s'est pressé en nombre au Théâtre du Capitole pour assister au récital du baryton allemand Michael Folle. Alors pourquoi ? Différentes raisons. La première, c'est que c'est l'un des plus grands barytons dramatiques du moment. Alors, pour la petite histoire, nous l'avons eu, il a fait un crochet par Toulouse pour une unique date française, faut le dire tout de même, en 2025. Et le crochet, il l'a fait depuis la Scala de Milan, où il venait de terminer une série de Valkyrie qui a été, pour lui, triomphale. Il chantait Wotan, bien évidemment. C'est dire quand même la pointure que Christophe Gristy a réussi à convaincre pour une seule date française, dont je répète, elle était à Toulouse, et pour un récital de leader. Alors, il faut dire que ce n'est pas nouveau pour lui, puisqu'on sait très bien qu'il y a une grande tradition parmi les grands barytons wagnériens de récital de leader. Je les avais cités la dernière fois.
Fischer, Dieskau et d'autres.
Entre auteurs, qui est vraiment la référence absolue, Dietrich Fischer, Dieskau, mais également, Serge, souviens-toi, Thomas Stewart,
absolument.
Également, et Théo Adam.
Théo Adam, oui.
Et voilà, qui étaient d'immenses Wotan et également d'immenses récitalistes. Alors, la première partie de son récital est dédiée, ça n'étonnait personne, à Franz Schubert, et avec une mélodie que personnellement je ne connaissais pas, qu'on peut traduire par Le Plongeur,
oui.
Qui en définitive, c'est une mélodie, c'est un peu long.
Je crois que c'est une des plus longues du répertoire du Lied, c'est près de 25 minutes.
Voilà, mais en fait c'est un mini-opéra qui passe à rappeler évidemment le roi de Tulé, la fameuse histoire du roi de Tulé. Et qu'est-ce qu'elle raconte en fait? C'est le sort tragique d'un jeune homme, un page en définitive, qui pour la main d'une belle princesse doit affronter des flots rugissants à la demande du roi, du père de la princesse dans la question, qui a jeté dans les flots une coupe d'or, on va imaginer, pourquoi pas. Et il a dit, ben voilà, celui qui la ramène sera récompensé. Alors, personne n'ose y aller parce qu'en bas de cette tour, les flots sont en furie. Évidemment, le risque est mortel, bien sûr. Et personne n'ose y aller, sauf ce jeune page qui se jette à l'eau et qui la ramène. Et le roi, bon, un peu, entre guillemets, déçu, lui dit, ben écoute, il la rejette à l'eau et lui dit, si tu me la ramènes à nouveau, tu auras la main de ma fille. Et comme les deux jeunes gens ont eu une histoire, bon, voilà, pas rentrer dans le détail, le jeune page retourne à nouveau dans les flots rugissants il n'en reviendra pas.
C'est un poème de Friedrich Schiller.
Voilà, c'est extraordinaire parce que la musique également, la musique écrite par Schubert là-dessus, fait de ce Lied un mini-opéra, littéralement, avec beaucoup d'affects, beaucoup de situations dramatiques, beaucoup de moments un peu plus mélancoliques, romantiques. C'est absolument extraordinaire. D'autant, je lui dis de suite que la pianiste française,
Sarah Tisman,
pardon, faut-il le souligner, elle s'appelle Sarah Tisman, et vraiment nous a fait également un véritable récital de piano. C'était extraordinaire. Alors, quant à Michael Foll, évidemment, il nous a chanté un mini-opéra, c'est-à-dire ce timbre d'airain. Alors, il le dit lui-même dans une interview qu'il a accordée à un confrère la semaine dernière. Il dit, écoutez, moi, je chante un peu moins en ce moment parce que je tiens à souligner que j'ai 65 ans.
Oui,
Donc, il faut que je me ménage. Voilà, on le comprend. D'autant que quand même, son répertoire aujourd'hui, c'est toujours le même. C'est-à-dire les grands Wagner, les grands Strauss. Bon, ce sont des rôles un peu lourds, hein, malgré tout. Il a ce timbre des reins. Alors là, inutile de vous dire qu'au Capitole, les 65 ans ne sont pas sentis du tout. Parce que dès les premiers mots de ce Lied, il a envahi la voix, littéralement envahi le Capitole. Il a un timbre qui est très dense, avec un grain très concentré. Et puis c'est un grand musicien, c'est-à-dire il sait mettre des couleurs, des nuances, des dynamiques, des affects particuliers un peu partout. Il nous en aurait fait presque pleurer. Alors d'autant qu'effectivement, avec le sous-titrage, on suivait l'aventure de ce pauvre page. Voilà, ça a été un moment frénétiquement applaudi et on le comprend. Après, dans le programme...
Dans la partie Schubert.
Dans la partie Schubert, voilà, il avait mis les trois leaders sur des poèmes de Métastase. Et dans la deuxième partie, il y aura les trois sonnets de Pétrarque. Mais là, nous sommes sur Franz Liszt. Voilà, il y avait dans la deuxième partie Franz Liszt et puis pas mal d'autres mélodies tout de même. Et c'est toujours pareil, dans toutes ces mélodies, il y a une élégance, il y a quand même, on sent un artiste qui a l'habitude de ce répertoire, qui le respecte profondément et qui en a toutes les qualités d'interprétation. Voilà.
Et c'est dans sa langue en plus.
Ah oui, c'est dans sa langue. Voilà.
Ouais, ah oui.
Bon, alors évidemment, le spectacle n'allait pas se terminer comme ça, bien sûr. Donc, les gens étaient littéralement debout pour l'applaudir. Et donc, la pianiste et le baryton sont revenus à trois reprises pour rechanter à nouveau du Schubert et du Liszt. Mais pas des reprises de ce qu'ils avaient chanté précédemment. Donc, ça a été une soirée magnifique. Je tiens à le dire parce que j'ai toujours un peu les oreilles qui traînent quand je sors du spectacle. J'aime bien entendre les échanges. Les échanges parmi le public. Alors, je crois que j'ai retenu une chose en disant, mais le surtitrage, mais c'est génial, est-ce que c'est toujours pareil ?
Eh bien non.
Eh bien non.
Il faut que ça le devienne.
Voilà, je ne sais pas si Christophe Gristy m'entendra là, maintenant, mais je suis obligé quand même de répéter ce que je lui ai déjà dit, et le public le réclame, hein. Vraiment, le surtitrage, comme vous disiez très justement,
c'est fondamental dans le livre, même si
c'est en français, c'est beaucoup plus confortable parce qu'effectivement, la prosodie parfois chez les chanteurs d'opéra. Bon, alors imaginez quand c'est du tchèque, quand c'est du russe, quand c'est de l'anglais, de l'allemand, voilà. Donc ça aide quand même à pénétrer davantage ce monde du Lied qui n'est pas quand même qu'un monde exclusivement musical. C'est également un monde poétique.
Le texte est
poétique.
Premier. Le texte est premier en général. C'est sur des poèmes qui sont déjà écrits, qui ne sont pas écrits pour la musique, qui sont préexistants.
Voilà. Et parfois d'auteurs littéraires.
Schiller,
de plus grande Heine, qualité
Goethe,
que dans l'opéra, il faut bien reconnaître
leur texte, bien sûr.
Voilà. Donc c'est une excellente initiative qui a été saluée, applaudie, et vraiment, Monsieur Gristy, si vous m'écoutez, essayez de renouveler.
Bon, je pense qu'il va reprendre le principe, j'en suis persuadé. Der Taucher, le plongeur, Lied de Franz Schubert sur le poème éponyme de Friedrich Schiller, était donc au début du programme du récital qu'a donné Michael Folle, accompagné par Sarah Tisman, le 6 mars au Théâtre du Capitole. Nous allons l'écouter dans le final de ce Lied, je le répète, un des plus longs du genre.
verkündigt der donnernde Schall. Da bückt sich sie nunter mit liebendem Blick. Da bückt sich sie nunter mit liebendem Blick. Es kommen die Wasser all, es kommen die Wasser all. Sie rauschen nieder, doch den Jüngling bringt keines
Le final du Lied Der Torheur de Franz Schubert, chanté par Michael Folle, avec qui nous concluons cette courte première partie d'émission. La petite virgule musicale habituelle maintenant, et nous revenons dans quelques secondes pour l'agenda de Mélomanie avec Serge Chosy, Robert Pénavert et notre invité Christophe Millet. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
Et Robert Pénavert va garder la main et la parole pour lancer cette rubrique agenda, puisque nous allons rester au Théâtre du Capitole, où le prochain opéra de la saison se profile déjà avec la reprise d'une production que nous avions découverte il y a 6 ans. Il s'agit de Norma, l'œuvre la plus célèbre de Vincenzo Bellini, dans la mise en scène d'Anne Delbé, créée en 2019 sur la scène toulousaine. Reprogrammation du 26 mars au 6 avril, pour laquelle étaient prévues 8 représentations. Mais la demande du public a été telle qu'il a fallu en ajouter une 9e le samedi 5 avril. Et pourtant, Robert, même celle-ci est déjà quasi complète.
Oui, c'est quasi complet. C'est-à-dire qu'à la billetterie, ils s'est aperçu qu'ils passaient leur temps à dire que c'était plein, c'est plein, c'est plein, c'est plein. Ils ont fait remonter évidemment à la direction qui a dit « Bon, ben, il faut voir un peu comment on peut faire. » Effectivement, en regardant le planning, puisqu'il y a 2 distributions, ben, il y avait ce qu'on appelle la seconde distribution. On va revenir sur le terme.
Oui, oui, oui.
La seconde distribution, donc, c'est-à-dire celle qui ne chante pas la première, avait une date libre. Et comme, bon, j'imagine que par contrat, ils sont obligés de rester sur place, ben, ils étaient libres, en définitive. Et ils ont accepté, bien évidemment. Ils ont accepté parce que les artistes, c'est fait pour se produire. C'est pas fait pour rester.
Oui, et puis le contexte étant ce qu'il est aujourd'hui dans le monde lyrique, je pense qu'ils sont bien contents quand on leur propose un cachet supplémentaire.
J'imagine. Mais en dehors de ça, quand même.
Mais après, il y a la passion
les
aussi.
Les artistes lyriques sont faits pour chanter.
Oui, comme il y a 2 distributions.
Pour chanter en public.
Oui, ils peuvent se permettre, comme il y a 2 distributions, voilà. Physiquement parlant.
Mais ça, c'est.
Ils ont l'énergie.
C'est malin de la part de. Ben, Nicolas Joël avait initié ça. Il y
oui, parce que
c'est
pas l'exception, ça arrive relativement souvent de rajouter quand il y a la demande.
C'est-à-dire, très clairement, pour les opéras qui risquent d'avoir une grosse affluence, autant Nicolas Joël que Christophe Gristy prévoient 2 distributions. Et très souvent, non seulement ça peut caser une autre date, mais en plus, ça peut pallier à une défaillance quelconque.
Ce qui malheureusement arrive assez souvent.
Et ça peut arriver. Oui. Voilà. Alors, d'ailleurs, en parlant de défaillance, ce n'est pas tout à fait une défaillance quand même, j'imagine, je l'espère, mais dans l'une des vedettes de ces reprises, on ne va pas reparler d'Anne Delbé qui est à la mise en scène, puisque nous l'avons disséqué littéralement à ce micro en 2019.
Voilà. C'était il y a 6 ans à peine. Voilà.
Mais l'une des stars de ces reprises, parce qu'en effet, l'intérêt, lorsqu'on fait des reprises, c'est de mettre, entre guillemets,
le nouveau directeur musical, les distributions, bien évidemment.
Et dans l'une des stars, j'y reviens, c'était Hervé Niquet, que nous n'avons pas trop l'habitude d'entendre dans ce répertoire.
Non, enfin, mais qui maintenant revient depuis quelques années, tous les ans.
Mais qui connaît bien, malgré tout. Alors, pour des raisons que j'ignore et que je n'ai pas à connaître d'ailleurs, il s'est retiré. De la production. Et donc, nous avons, pour le coup, un nouveau chef d'orchestre espagnol qui s'appelle José Miguel Pérez Sierra, qui vient pour la première fois, Serge. Oui. Me confirme.
Oui, c'est un nom que
il n'est pas venu
c'est pas diriger l'orchestre là, dans ce domaine. Non, je ne l'ai jamais vu.
Eh bien voilà. Donc il n'est jamais venu. Alors, sous toute réserve, je crois qu'il vient d'être nommé directeur musical du Real de Madrid. Je parle bien de l'opéra, là. Hein. Voilà. Non, parce que... Bon, comme,
il va pas faire chanter Kylian Mbappé sur les terrains de...
Voilà. Le Real de Madrid fait partie quand même des plus grandes scènes mondiales d'opéra. Voilà. On parlait de distribution. Allons-y. Alors, cette année, c'est l'Adalgise de 2019 qui endosse le rôle de Norma.
Oui, Karine Deshaies.
C'est Karine Deshaies, voilà. Elle sera en alternance... On va parler d'abord, pour ne pas tout mélanger, de la première distribution. Mmh. Donc, première distribution, c'est Karine Deshaies dans Norma. L'Adalgise, c'est Vardoui Abrahamian. Je pense que nous avons déjà entendu au Capitole, qui est une mezzo-soprano extrêmement intéressante à suivre. Le ténor, je ne sais pas si vous en souvenez, il a chanté en 2022 à l'Allograin dans une version semi-scénique. Le Villi, Roberto du Villi. Et dans une version qui lui faisait un peu, entre guillemets, gentiment, arpenter la Allograin, un peu dans tous les sens. Et quand on pense à la difficulté de ce rôle du Villi, eh bien moi j'ai un excellent souvenir de ce ténor italien, Luciano Ganci, et je suis vraiment très très impatient de l'entendre dans le rôle de Pollium, qui est tout sauf un rôle facile. Les plus grands ont trébuché dans ce rôle. Loro Vezzo est quand même, c'est un pilier de la maison,
ah, oui,
et un pilier des répertoires italiens. Roberto Scandiuzzi, on a toujours un immense plaisir à revoir.
À le voir et à réentendre.
Et à réentendre cet artiste, voilà. Clotilda, c'est Anna Ognani. Et Flavio, c'est Léo Vermont-Desroches également. Alors,
n'oubliez
que Flavio est un rôle dans lequel on peut se faire remarquer. Flavio, quand on le fait bien, ça peut ouvrir des portes. Deuxième distribution, et je voudrais revenir sur cette deuxième distribution. D'abord pour dire que c'est celle qui chante La Supplémentaire du 5 avril. Elle réunit une soprano que tous les amateurs d'opéra qui ont vu Jules César se souviennent, puisque c'est celle qui chantait Cléopâtre. Hein. Et quelle Cléopâtre ? Alors, d'abord magnifique physiquement, pourquoi ne pas le dire, d'une intensité dramatique extraordinaire, et puis avec une voix, moi, quand je l'ai entendue dans sa Cléopâtre, en permanence j'essayais de transposer ce qu'elle allait faire dans Norma, et vraiment je suis extrêmement impatient. Alors, la mezzo, ça va être une immense découverte, c'est une jeune, toute jeune mezzo-soprano française qui s'appelle Eugénie Jauneau. Je vous en dirai un peu plus la prochaine fois, tout d'abord parce que dans quelques heures, je vais l'interviewer, faire connaissance avec elle. Moi, je pense qu'elle va faire partie des découvertes majeures de ces reprises de Norma. Je ne veux pas en dire davantage parce que je ne peux pas. On va également découvrir, enfin du moins pour ma part, un ténor géorgien qui s'appelle Mikhail Chechaberidze dans Pollium. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, les plus grandes scènes du monde ne peuvent pas se passer de son calaf. Alors, est-ce que c'est une référence pour chanter Pollium ? On peut en discuter, mais
non,
c'est une,
très demandé,
un chanteur qui est très demandé. Ouais. Son répertoire, c'est calaf surtout, c'est Radamès, c'est Mario dans la Tosca. Donc, découverte. Alors, quelqu'un que nous allons retrouver au Capitole, et j'avoue que j'attendais avec beaucoup d'impatience son retour. Christophe Christy m'avait promis qu'il reviendrait, mais il faut savoir que nous l'avions découvert il n'y a pas très longtemps, en avril 2024. Il chantait, comme par hasard, dans une seconde distribution, il chantait dans les reprises de Cenerentola le rôle d'Alidoro. Et moi, dès que j'avais commencé à l'entendre, je me disais, qu'est-ce que c'est cette voix ?
Il s'appelle ?
Alors, il s'appelle, oui, bien sûr, il faut dire son nom, Adolfo Corrado. Alors, écoutez, vraiment, cette deuxième distribution est complètement enthousiasmante de découverte.
Parce que,
et vraiment, je pense qu'il n'y a pas un vrai suspense. On va en reparler longtemps de cette deuxième distribution.
Voilà, donc Claudia Pavone en Norma, Eugénie Jauneau, qu'on va découvrir en Adalgisa.
Juste
encore...
un petit mot que j'allais oublier de dire, mais ça a quand même son importance. José Miguel Pérez Sierra a été pendant très longtemps l'assistant d'Alberto Zedda, qui est la référence absolue en matière de renaissance du bel canto. Rossignol en particulier, mais pas que.
Alors on cite quand même celui qui va être le grand cerf blanc, ce fameux grand cerf blanc dans la mise en scène d'Anne Delbé, repris cette fois-ci par sa fille Émilie. Hein. Oui. Je crois qu'il y aura quelques variantes quand même dans la mise en scène a priori.
Oui, parce qu'elle a déjà été reprise, cette mise en scène, et oui. Il semblerait, d'après ce qu'on m'en a dit, que par rapport à la première au Capitole, elle a été sensiblement, je dis bien sensiblement, remaniée. Mais de toute façon, ça m'étonnerait que Émilie Delbé ait touché fondamentalement la production de sa mère.
Donc il y aura encore le grand cerf blanc. Et c'est Emmanuel Barouillé, apparemment, qui, s'il n'y a pas de changement, parce que je me méfie parfois des changements de distribution par rapport à ce qui est annoncé.
Oui, mais c'est un rôle muet.
On est bien d'accord, mais il faut quand même citer, ceux qui sont sur scène. Bon, bah, évidemment, il y a cet air fameux parmi les airs fameux dans Norma, donc je vais vous le faire écouter, interprété par Karine Dehaye, puisque c'est elle qui sera dans la première distribution dans le rôle titre. On écoute Karine Dehaye chanter Casta Diva. Casta Diva, chantée par Karine Dehaye, qui tient donc le rôle titre dans Norma dans la première distribution. Elle sera en alternance avec Claudia Pavone au Théâtre du Capitole du 26 mars au 6 avril. Il y a 9 représentations et toutes sont complètes, à l'exception peut-être de celle du samedi 5 avril, pour laquelle il doit rester quelques places. Si vous en voulez une, il faut vraiment vous dépêcher. À nous, Christophe Millet. Je rappelle, pour ceux qui viendraient de nous rejoindre à l'écoute de cette émission, que vous avez pris la direction du Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse début novembre dernier. Mais si je vous ai invité aujourd'hui, c'est parce que vous allez diriger l'orchestre du Conservatoire à Saint-Pierre-des-Cuisines le samedi 29 mars. À 15h et 20h, il y a 2 concerts. Je précise que la jeune violoniste toulousaine Manon Galli est la soliste de ces 2 rendez-vous. Nous allons bien sûr parler de tout ça ensemble, mais auparavant, je voudrais que nos auditeurs fassent mieux connaissance avec vous. Quel a été votre parcours de musicien et de directeur d'établissement avant votre poste actuel au Conservatoire de Toulouse ?
Bonjour, merci de me recevoir. Un parcours que j'ai toujours voulu marier entre la direction de l'établissement depuis la fin des années 2000 avec la possibilité aussi d'être un artiste et d'être sur le pont et de ne pas seulement gérer la chose artistique mais d'être aussi efficient et de participer. C'est le 4e établissement que je dirige. Hein, précédemment, j'étais au CRR d'Angers, au Conservatoire régional d'Angers. Et je suis donc depuis novembre, vous l'avez dit Eric, le nouveau directeur du Conservatoire de Toulouse. Parallèlement, j'ai toujours mener une carrière de chef d'orchestre. J'ai beaucoup dirigé d'orchestres de jeunes en particulier. Je me suis toujours beaucoup intéressé à la pédagogie. Ça allait un peu de pair avec mon métier. Et voilà, j'ai dirigé au Portugal, en Pologne, aussi en France, certains ensembles, au fur et à mesure de mes différents postes et des différentes invitations que j'ai pu recevoir. J'ai toujours voulu mélanger et poursuivre parallèlement ces deux fonctions. Et l'une me semble vraiment nécessaire pour nourrir l'autre et réciproquement.
Et passion qui se prolonge concernant la direction d'orchestre, que vous n'avez jamais lâchée apparemment, parce que je vous ai connu dans votre Berry natale, qui est aussi le mien, vous aviez créé un orchestre de jeunes qui s'appelle Tempo Primo, et c'était il y a plus de 30 ans.
C'était dans les années 90, tout à fait, oui. Voilà, un orchestre qui a beaucoup tourné et qui a existé dans les années 2006-2007, avec lequel on a accompagné Pierre Amoyal, Patrice Fontanarosa, Gundulayanovic, des grands artistes, et enregistré plusieurs disques, avec Yvon Rie, le pianiste en particulier, voilà. Donc on a fait beaucoup de choses très très intéressantes pour répondre le répertoire symphonique dans les grandes villes, mais aussi parfois dans des plus petites communes où on jouait en formation un peu plus restreinte pour porter un peu ce répertoire vers l'ensemble de nos concitoyens.
Et donc, même après avoir pris de grosses responsabilités dans des conservatoires, avant Toulouse, celui d'Angers par exemple, vous avez toujours continué à diriger?
Oui, tout à fait. J'ai eu cette opportunité à la fois dans l'établissement que je dirigeais, mais aussi avec d'autres formations et avec diverses invitations que j'ai pu recevoir sur des répertoires qui m'intéressaient. Évidemment, j'ai un métier assez prenant, donc je dois toujours être vigilant à organiser très sereinement mon emploi du temps pour pouvoir aller un peu sur ces deux voies.
Et donc, cette passion va se prolonger à Toulouse?
Oui, tout naturellement. Voilà. À Angers, j'avais aussi un travail avec l'orchestre des grands élèves. Je trouvais assez naturel de le mener aussi à Toulouse parce qu'il est important que le directeur soit aussi un musicien. Je fais partie de cette génération, peut-être la dernière génération de directeurs d'établissement qui sont...
Sur la base des artistes,
voilà,
et des musiciens.
Compositeurs, artistes. Bon, en son temps, Marbleuse, je dirigeais aussi, était compositeur. Je ne suis pas compositeur, bien qu'ils ont fait des études d'écriture au Conservatoire de Paris, mais je ne suis pas compositeur. Mais en tout cas, j'aime faire vivre la musique des autres et m'associer à l'apprentissage artistique et à la vie pédagogique de l'établissement. Donc, tout naturellement, mon métier étant de diriger des orchestres, je vais vers cette fonction dans les conservatoires.
Il y aura donc d'autres concerts avec l'orchestre du conservatoire. Alors à ce propos, sur les affiches, on voit c'est l'orchestre A du conservatoire. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors ça veut dire
c'est les grands élèves.
Voilà, ça veut dire qu'au conservatoire, on a l'orchestre A, B, C, D, des orchestres symphoniques, des orchestres d'harmonie. Il y a une douzaine d'orchestres au conservatoire. La pratique collective est très très forte au conservatoire. Et ça, c'est vraiment très très intéressant parce qu'on doit aux élèves cet apprentissage en collectif. Ça fait partie intégrante de leur formation et c'est tellement nourrissant, à la fois d'un point de vue artistique, musical, pédagogique, mais aussi sociétal, parce qu'on apprend à vivre ensemble,
la vie collective,
à s'écouter,
travailler en équipe,
à travailler, à se respecter. Et c'est des valeurs, je pense, qui sont tellement intéressantes dans le monde d'aujourd'hui.
C'est même certain, les membres de l'orchestre, donc ce ne sont que des étudiants. Il n'y a pas de professeurs, par exemple, avec eux.
Exactement, ce sont des grands élèves. Voilà, on a la chance à Toulouse d'avoir quand même beaucoup de grands élèves qui préparent un enseignement supérieur, qu'on appelle, un nom un peu barbare, qu'on appelle les CPS, classes préparant l'enseignement supérieur. Donc, des élèves qui pour la plupart se dirigent vers une carrière professionnelle d'enseignant, d'artiste, de musicien d'orchestre, et puis aspirent à entrer dans l'établissement supérieur. La semaine passée, 6 élèves sont entrés au Conservatoire de Paris, par exemple, ce qui on est assez fiers, et ça va encore continuer dans les semaines
à
venir.
Tous les ans, on constate.
Il y a toujours de belles brochettes de Toulousains. Déjà de mon temps, l'accent chantant toulousain était présent dans les couloirs.
Ouais. Alors, le premier que vous allez diriger, donc le 29 mars, avec l'orchestre A, du conservatoire. Pour celui-ci, vous avez invité Manon Galli en soliste. Voilà un pur produit de la formation musicale toulousaine, née à Toulouse, et puis qui a fait tout son parcours au conservatoire avant de rejoindre le CNSM à Paris, et qui a commencé la carrière qu'on connaît maintenant. Ça s'est fait comment, le lien avec elle?
J'ai eu la chance de la rencontrer, elle m'est sollicitée, elle souhaite enregistrer un disque qu'elle a enregistré il y a quelques semaines dans notre auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines, et puis je lui ai proposé cet événement, ce concert. Elle a accepté avec enthousiasme, je me suis dit que c'était une bonne piste, parce que effectivement, j'ai souvent eu l'occasion de travailler avec des anciens élèves ou des jeunes professeurs. Enfin, j'ai dirigé autrefois un orchestre de jeunes, donc j'ai toujours eu cette cette envie de mettre le pied à l'étrier. Et alors, Manon n'a pas besoin de nous pour mettre le pied à l'étrier, mais je pense qu'elle est heureuse de jouer un concerto.
Elle adore venir à Toulouse, voilà, exactement, façon, exactement. Revenir sur ses terres. Voilà.
Et elle est très fière et très heureuse. Elle m'a dit de jouer un concerto là où elle a joué dans l'orchestre, peut-être pas A, mais peut-être B ou C, il y a un certain nombre d'années.
Très probablement, très probablement. Tout à fait. Alors, ça veut dire que vous allez inviter régulièrement d'anciens étudiants du CRR qui font carrière, pour certains de grandes carrières aujourd'hui. Bon, il y a des noms comme ça qui nous viennent à l'esprit, Thibaut Garcia, Nathanaël Gouin, Aurélien Gignoux, Adam Laloum, Juliette May plus récemment, et puis d'autres qui arriveront
sans
doute.
Oui, bien sûr, oui. Ben, je pense que pour les élèves, c'est toujours assez édifiant d'avoir quelqu'un qui répète leurs camarades quelques années plus tôt, qui entre dans la carrière, et les échanges hors temps de répétition, les dialogues, les conseils, je pense que c'est assez parlant pour eux, et ça leur donne aussi un élément de motivation qui est extrêmement fort.
Bien sûr.
Voilà, on était à Toulouse et maintenant on entre dans la carrière, et j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à mettre en route ce genre d'échange. Nathanaël, par exemple, que je connais parce que je l'ai accompagné dans la fantaisie de Beethoven à Angers il y a quelques années, la fantaisie pour piano, chœur et orchestre, et là aussi, les échanges avaient été formidables avec les élèves,
les
parce
étudiants.
Que la différence d'âge est tellement petite que, voilà, c'est des gens qui partagent aussi des passions diverses pour des choses, souvent bien extra-musicales.
Oui, Manon Galli, par exemple, a 28-29 ans, donc elle était encore élève à Toulouse il y a une dizaine d'années.
Exactement, exactement.
Alors, vous allez nous présenter le programme de ces concerts, mais nous allons d'abord écouter un extrait d'une des œuvres que vous allez jouer avec l'Orchestre du Conservatoire et Manon Galli, le concerto pour violon de Sibelius, dont voici le tout début du premier mouvement, Allegro Moderato, dans une version où l'on retrouve un musicien qu'on connaît bien à Toulouse, Daniel Lozakovitch. Le premier mouvement Allegro Moderato du concerto pour violon de Sibelius dans une version avec Daniel Lozakovitch, ce jeune violoniste suédois entendu encore tout récemment aux côtés de l'Orchestre du Capitole lors de son concert le 1er mars à la Halle de la Machine. Nous en venons donc au programme des concerts du samedi 29 mars donné à 15h et 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Savez-vous si Manon Galli a déjà joué le concerto de Sibelius en concert?
C'est une colle, Eric, je ne le sais pas. Mais
J'ai pas vu, moi, franchement, je ne pense pas.
En tout cas, elle souhaite le mettre à son répertoire, donc sans doute qu'elle le rejouera encore de nombreuses fois. C'est tout le bonheur que je lui souhaite.
Contente de s'y frotter pour la première fois à Toulouse, je pense, avec l'orchestre du conservatoire. Ça doit être une grande joie pour elle. Deux autres œuvres au programme, ce sont lesquelles?
Oui, alors c'est un programme que j'ai appelé « Destin », parce que les trois œuvres sont pleines de destin, justement. Une petite ouverture de Verdi qu'on joue très très peu, un petit prélude, c'est le prélude d'Attila.
Oui, ça, voilà. Le concert, j'ai jamais entendu.
Qui est un opéra assez peu connu, on connaît les grands Verdi, alors ces messieurs qui sont spécialistes peut-être connaissent Attila.
Robert, s'il ne connaît pas, alors là, je me
Attila, ça va vous étonner, mais ça a été donné au Capitole.
Oui, j'imagine.
Oui, oui, il y a une trentaine d'années, voilà. Ouais. C'est un opéra très difficile à chanter. Ça explique aussi pourquoi c'est là le rôle à soprano.
Il y a un prélude qui est très très bref.
Oui, c'est vrai. C'est pas une ouverture. Minutes, voilà. C'est un prélude, oui.
Voilà, c'est une petite mise en bouche avant Sibelius.
Donc
le destin particulier d'Attila, bien sûr. Le destin de Manon, qui devient une grande violoniste alors qu'elle était il y a une dizaine d'années ou 15 ans encore au conservatoire de Toulouse. Et puis ensuite la pathétique de Tchaïkovski où c'est vraiment le destin du
compositeur, parce que
c'est une œuvre qui est presque autobiographique. Et à travers tout ce fatum, il raconte sa vie, ses émotions, son désespoir jusqu'à sa chute finale. Et donc cette partition, elle est extrêmement émouvante et à la fois d'une grande variété et d'une grande densité. Parce que ce qui guide mon choix, c'est aussi l'intérêt pédagogique des œuvres. Il s'agit d'étudiants qui, pour la plupart, jouent pour la première fois les œuvres. Donc avec une certaine fraîcheur, mais ils ont aussi besoin de se frotter et de connaître le répertoire de l'intérieur. Et donc, je me dois de leur proposer des « entre guillemets tubes », parce qu'il faut bien faire ses armes à un moment ou à un autre. Et puis, c'est quand même toujours un bonheur que de jouer du grand répertoire.
En parlant de première fois, est-ce que pour vous, ce sera aussi une première de diriger le concerto de Sibelius, la sixième de Tchaïkovski et puis le prélude d'Attila?
Alors, en ce qui concerne Sibelius, effectivement, c'est la première fois que je vais le diriger. J'avoue que c'est un peu le hasard de la vie. J'ai fait beaucoup de Brahms, beaucoup de Mendelssohn, beaucoup de Beethoven et jamais Sibelius. Voilà, donc je suis ravi de le faire entrer dans mon répertoire. Le prélude d'Attila et la sixième de Tchaïkovski, je l'ai beaucoup dirigé, en tout cas, avec des orchestres de jeunes, de moins jeunes. C'est une œuvre que je connais assez bien. Et c'est pour ça, connaissant ses vertus pédagogiques et sa structure qui permet vraiment de passer d'esprits très différents, de modes de jeu très différents, d'atmosphères très différentes, me semblait tout à fait profitable à l'éducation de ces jeunes artistes.
Est-ce que vous avez déjà commencé à répéter avec eux
Alors, on a fait une première lecture avant les vacances de février et on va commencer dès la fin de la semaine, une semaine intensive pour préparer les concerts du 29. Alors, vous l'aurez noté, c'est quand même une certaine performance de jouer à 15h et à 20h. Oui. Mais ceci s'explique par le fait que l'auditorium de Saint-Pierre-des-Cuisines ne contient que 400 places et que j'imagine bien que autant de monde sur scène et la présence de Manon Galli vont drainer un large public. J'espère que tout le monde pourra y trouver sa place.
D'autant plus que l'entrée est libre, on l'a pas dit, mais
exactement.
Faut le préciser.
Voilà,
libre dans la limite des places disponibles,
exactement.
Bien sûr.
Et l'entrée est gratuite, donc c'est une...
Il faut quand même réserver ou il faut arriver dans les premiers pour être sûr d'avoir une place?
On est en train de mettre en place un système de réservation, donc je vous conseille de surveiller attentivement le site internet du conservatoire pour savoir comment se procurer des places.
Je vais bien sûr donner l'adresse du conservatoire mail pour réserver ces places. On va terminer en douceur cette présentation de vos concerts du 29 mars. Voici un extrait de la symphonie numéro 6, dite pathétique. On va écouter le deuxième mouvement, Allegro con Grazia, dans une version de l'orchestre du théâtre Mariinsky, dirigé par Valéry Gergiev.
Thank you.
Le deuxième mouvement, Allegro con Grazia, de la symphonie numéro 6, dite pathétique de Tchaïkovski, dans une version de l'orchestre du Théâtre Mariinsky, dirigée par Valérie Gergiev. C'est l'une des trois œuvres au programme des concerts de l'orchestre du Conservatoire de Toulouse que dirige Christophe Millet, samedi 29 mars à 15h et 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Il nous reste du temps pour vous annoncer deux autres concerts à venir, dont un de la série Happy Hour de l'Orchestre National du Capitole, qui rentre de tournée, là, sa longue tournée en Allemagne. Ce concert a lieu ce samedi 22 mars à 18h, comme tous les Happy Hour, à la Halle au Grain. Et c'est le pupitre des trombones qui va y être à l'honneur, Serge Chosy.
Absolument, avec une nouvelle venue, une chef d'orchestre autrichienne qui s'appelle Katharina Winkort, née en 1995, vous voyez, c'est une jeune chef, et qui vient diriger un concert en trois étapes, avec tout d'abord des œuvres assez connues comme l'ouverture tragique de Brahms, l'ouverture de la grande Pâque russe de Nikolaï Rimsky-Korsakov, mais vraiment la grande surprise, c'est entre les deux, ce sera là une création mondiale, celle de Tribone. C'est le nom d'un concerto pour trois trombones et orchestre du trompettiste et compositeur Thierry Kanz, qui a donc composé pour ses collègues trombonistes. Il s'agit d'une commande de l'Orchestre National du Capitole et du Florida Orchestra, avec le soutien de deux marques d'instruments, Buffet-Crampon.
Oui, bien connu de ceux qui pratiquent les instruments en question.
Oui, exactement.
Buffet-Crampon, Antoine Courtois.
Et donc, ce sera une création vraiment d'une originalité incroyable, hein, puisqu'il s'agira de mettre en avant le trombone, un instrument qui s'est spécialisé un peu dans les musiques religieuses.
Oui, hein. Confiné aux musiques religieuses.
Et donc, on connaît le fameux Tuba Mirum du Requiem de Mozart, ou le solo redoutable dans le Boléro de Ravel, et d'autres. Il y aura donc trois solistes, évidemment, avec comme premier trombone, Joël Weiss, qui est le trombone solo du Florida Orchestra, ceci depuis 2017, mais qui retrouve l'Orchestre National du Capitole, dont il a été le trombone solo dans le passé, dans les années 90. Et il sera rejoint par ses deux collègues et solistes actuels de l'orchestre, David Lequeneux et Louise Ognois, dont je dois dire la grande qualité de musiciens. Ils ont récemment, chacun de leur côté, porté au nu un solo de trombone d'une redoutable difficulté. David Lequeneux, c'était dans la suite La femme sans ombre de Richard Strauss.
Oui.
Il y a un solo de trombone incroyable. Et Louise Ognois, c'était justement dans le Boléro de Ravel, où elle a joué ce solo redoutable avec une musicalité absolue. Et puis, deux jours avant, il y aura...
Oui, parce qu'il y a des événements autour de l'événement.
Autour de l'événement. Le jeudi 20 mars à 19h à l'INSA, l'Institut National des Sciences Appliquées, dans l'amphithéâtre Sophie Germain, ce sera une rencontre autour du trombone, composé d'une table ronde et puis d'une présentation en musique d'un disque enregistré par l'Atelier des Sacs-Boutiers avec la classe de trombone de Daniel Lassalle du Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse. Et cet événement est organisé en partenariat avec AIDA, hein, l'association qui soutient les activités de l'Orchestre National du Capitole et de l'Opéra, maintenant National du Capitole. Donc, il y aura vraiment du bruit autour du trombone. Hein. Et puis, il y aura le 21 mars à 20h, un concert AIDA, donc avec le même programme que le programme de la Happy Hour du lendemain, donc avec toujours cette création que l'on attend avec impatience, Tribone de Thierry Kanz.
Thierry Kanz, concerto pour trois trombones, création mondiale, le 22 mars à la Halle au Grain, pendant le Happy Hour. Évidemment, cette œuvre, je ne peux pas vous la faire écouter puisqu'elle n'est pas créée, mais je peux vous faire écouter un extrait de la grande Pâque russe, cette ouverture composée par Rimsky-Korsakov, avec son solo de trombone bien connu de tous ceux qui pratiquent cet instrument. Le solo de trombone dans la Grande Pâquerusse, l'ouverture composée par Nikolaï Rimsky-Korsakov au programme du concert Happy Hour de l'Orchestre National du Capitole, ce samedi 22 mars à 18h à la Halle aux Grains, un concert qui met donc en vedette les trombonistes de l'orchestre. Et puis enfin, un mot sur le prochain rendez-vous du cycle des grands interprètes. Il a lieu le mercredi 26 mars à 20h à la Halle aux Grains encore, où se produit ce soir-là une formation très prestigieuse, l'Orchestre de Chambre d'Europe, aux côtés de Sonmuk Kim, dans un programme très copieux que le grand pianiste sud-coréen va diriger de son piano, et où on le retrouve rien moins que les concertos numéro 3, numéro 4 et numéro 5 de Beethoven. Alors ça, je pense qu'on peut dire que c'est un vrai concert performance.
C'est vrai. Ah ouais, complètement, c'est un marathon des concertos, les trois derniers donc de Beethoven. Sachez que Sonmuk Kim a quand même gagné le concours de Leeds en 2006 à l'âge de 18 ans, devenant ainsi le plus jeune lauréat du concours depuis 40 ans. C'est quelqu'un qui est né à Séoul en 1988, donc vous voyez son âge. C'est un grand musicien et qui là se lance un défi incroyable, les trois concertos numéro 3, numéro 4 et numéro 5. Donc ça finit par le concerto l'Empereur. Sacré défi qu'il va rejouer ailleurs. Hein. Il fait une tournée en ce moment avec ce genre de répertoire.
Que c'est pas un one shot comme on dit
aujourd'hui. Non, exactement.
Alors Sonmuk Kim, on le connaît à Toulouse parce qu'il s'est déjà produit notamment à Piano Jacobin.
Oui, voilà.
En 2017 et la dernière fois c'était en 2020. Et figurez-vous qu'il avait joué à l'époque les trois dernières sonates de Beethoven. Donc c'est un habitué quand même des performances.
C'est ça. Ouais,
parce que jouer la 109, la 110 et la 111 en suivant, pas certain qu'il y ait beaucoup de pianistes qui s'y soient risqués. Hein. Lors du même concert.
Apparemment, ça le stimule.
Oui, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Nous allons pouvoir entendre Sonmuk Kim dans un concerto de Beethoven. Ce sera le cinquième, l'Empereur. C'est le troisième mouvement, Rondo Appassionato ma non troppo.
Thank you.
Le troisième mouvement, Rondo Appassionato ma non troppo, du concerto numéro 5, L'Empereur de Beethoven, joué par Sunmo Kim. Le pianiste sud-coréen l'a mis au programme du concert qu'il donne avec l'Orchestre de Chambre d'Europe, mercredi 26 mars à 20h à la Halle au Grain. C'est un rendez-vous du cycle des grands interprètes où vous allez aussi pouvoir entendre les concertos numéro 3 et numéro 4 du même Beethoven. La billetterie est en ligne sur le site www.grandsinterprètes.com. Je rappelle d'autre part que l'Orchestre National du Capitole est en concert cette semaine, samedi 22 mars à 18h, également à la Halle au Grain, pour un happy hour avec le trombone, durant lequel va avoir lieu la création mondiale du concerto pour trois trombones de Thierry Kantz. L'achat et la réservation des places se font sur le site www.onct.toulouse.fr. Je rappelle aussi que 9 représentations de Norma, l'opéra de Bellini, sont programmées au Théâtre du Capitole du 26 mars au 6 avril. Il reste peut-être quelques places pour celle du samedi 5 avril à 20h. Alors je vous invite à vous connecter rapidement au site www.opéra.toulouse.fr si vous souhaitez vous en procurer une ou plusieurs. Et puis je rappelle enfin les deux concerts de l'Orchestre du Conservatoire de Toulouse, dirigé par Christophe Millet, à Saint-Pierre-des-Cuisines à 15h et 20h le samedi 29 mars. La violoniste Manon Galli se joint à eux pour exécuter le concerto de Sibelius. Et vous allez aussi pouvoir entendre le prélude d'Attila de Verdi et la symphonie numéro 6 pathétique de Tchaïkovski. L'entrée est libre dans la limite des places disponibles. Renseignements sur le site www.conservatoire.toulouse.fr. Vous devriez pouvoir vous inscrire. Je remercie mes amis Serge Chosy et Robert Pénavert pour leur assistance toujours aussi précieuse dans l'animation de ce numéro. Je remercie également Christophe Millet, notre invité d'honneur, que j'espère revoir rapidement dans cette émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site web de Radio Présence. Et je remercie pour finir tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine musicale.